confrontés à ces problèmes.
Merci, Monsieur le Président. Je vais essayer en un quart d'heure de résumer des années de réflexion commune, en particulier avec Federico. J'ai vu dans le programme, on parle, c'est normal, le sous-titre est là, impunité, amnésie, tout cela, mais le titre global, c'est qu'est-ce que la justice transitionnelle, point d'interrogation, la problématique sous l'angle de la loi internationale. Alors, je vais rester dans ce cadre général, mais à partir de mon expérience pratique. Mon expérience est tirée de 28 ans d'ONU maintenant, donc à la fois sous la guerre froide, la glasnost, tout ce qui a suivi, le 11 septembre, l'après 11 septembre, où tout devient difficile. Et j'ai de plus en plus de difficultés à parler de justice transitionnelle sans parler en même temps de la légalité transitionnelle. Et c'est cela en particulier que je vais développer. Parce qu'en Haïti, dont je suis l'expert indépendant, c'est un des problèmes majeurs auxquels je suis confronté. D'abord, la justice transitionnelle n'est qu'un sous-ensemble d'un problème plus général qui est un processus transitionnel qui prend la forme d'une plateforme, mais dans certains pays d'Amérique latine, j'ai fait un inventaire, dialogue national, coalition de la société civile, pacte démocratique, plateforme nationale, convergence démocratique. Et donc la justice s'insère dans un processus politique global qui inclut évidemment d'autres aspects de la gouvernance, le législatif et pas seulement le judiciaire, l'exécutif. L'autre point, là je ne vais pas développer, que je laisserai plus le soin d'autres d'après le thème, mais je tiens ici, c'est une idée majeure à laquelle j'ai construit une grande partie de la théorisation de la réflexion. C'est que dans mon rapport qui conclut sur un ensemble de principes pour la protection et la promotion des droits de l'homme par la lutte contre l'impunité, je suggère, et j'y tiens, à ce que l'emploi du terme conciliation soit une première étape avant que soit abordée l'éventuelle réconciliation. Ça rejoint un peu ce que tu as dit sur le collectif et mémoire collective individuelle, mais les deux réglés par les juges, je suis un peu moins catégorique. La conciliation, elle relève d'une démarche collective. Qu'il s'agisse d'accords de paix, de plateformes, dialogue national auquel j'ai directement ou indirectement participé, c'est d'abord un dialogue. Il n'y a pas d'accord de paix sans discussion, donc pas d'accord de paix sans dialogue, et c'est collectif. Ça dépend sous quelle forme. Tandis que la réconciliation, elle relève de la morale, et non point de la politique au sens des accords de paix, par exemple. Elle passe par un acte personnel qui est le pardon, mais c'est une question qu'on vient d'évoquer indirectement. À qui pardonner si l'auteur n'est toujours pas identifié ? Pourquoi lui pardonner s'il n'a pas manifesté le moindre repentir ? Ou bien, ce qui revient au même, le pardon implique qu'il soit demandé par l'auteur des violations. Comme disait, je crois, André Jacques et Geneviève Jacques dans leur livre, pour pouvoir tourner la page, encore faut-il qu'elle ait été lue. Or, dans les deux cas, hypothèse d'un accord de paix, hypothèse d'un accord politique de dialogue national, se pose toujours, pour une phase plus ou moins longue et souvent un peu chaotique, surtout au début, la question de la justice transitionnelle. Alors, de mon expérience, comment s'instaure progressivement un processus de justice transitionnelle ? Ça ne se décrète pas comme ça du jour au lendemain. S'il y a une certaine volonté politique de s'engager dans une transition, processus transitionnel, c'est une haute priorité doit être accordée à cette réforme qui est la plus difficile, c'est la réforme de la justice. Paradoxalement, on pourra y revenir dans le débat, c'est plus difficile que la réforme de la police. Et je le vois, hélas, en Haïti. Pourquoi haute priorité ? Parce qu'il est très important que les juges, que les tribunaux nationaux, qui dans un premier temps continuent à appliquer la loi en vigueur. J'ai vécu le cas au Timor. c'était la loi indonésienne, le temps d'élire un parlement, d'avoir des lois nouvelles, il y a la loi préexistante, j'y reviendrai. Et donc cela risque de devenir une cause majeure d'impunité. Et c'est de là qu'on voit que ça n'est pas qu'une question de juge, c'est aussi une question de l'égalité transitionnelle. Autrement dit, quel juge pour quelle loi? Alors, quelles sont les principales difficultés que j'ai rencontrées ou que doit surmonter? Il y en a beaucoup d'autres. La justice transitionnelle, je cite, j'en retiendrai quatre. La première difficulté, qui est très compliquée à surmonter, la destruction fréquente de l'infrastructure judiciaire dont hérite la nouvelle gouvernance. Deux cas que j'ai connus de près, le plus terrifiant, c'est Timor. Tout était brûlé. Le palais de justice, le greffe, l'état civil et même mon hôtel. La ville était complètement dévastée. Alors, rendre la justice sans palais, sans lieu adéquat, ce qui est important. D'ailleurs, ma première mission que j'ai faite au Timor, elle était faite avec des architectes et pas des juristes. Deuxième, même problème auquel on a été confronté après le départ du président Aristide, où il y a eu une dévastation des prisons, destruction des commissariats. Alors, allez donc respecter le délai de garde à vue. Je me souviendrai toujours de le substitut de Hinche qui m'appelle, qui me dit « Monsieur l'expert, la MINUSTA, c'est la force de maintien de la paix de l'ONU, de stabilisation, pardon, de la paix », qui me dit « Ils viennent de m'apporter 75 flagrants délits, un groupe en flagrants délits, et je n'ai pas de lieu, il n'y a plus de prison, il n'y a plus de commissariat, comment je fais pour respecter la garde à vue ?» Et là, c'est un exemple où la justice transitionnelle passe par des voies souvent détournées, qui ne sont pas que les preuves des tribunaux. J'ai, dans mon rapport, je l'explique, ce que j'appelle les garanties de substitution. Je lui ai dit, essayez de trouver un lieu, que ce soit privé ou public, je ne sais pas, mais un minimum de garanties de substitution, c'est-à-dire qu'il faut que les locaux, la liste des locaux improvisés soit rendue publique, avec l'identification d'un responsable, qu'un registre des détenus soit tenu à jour, et que les locaux soient accessibles à des mesures de contrôle. Alors, si on respecte le droit, les normes internationales, il y a des normes de l'ONU sur la détention, il faut des locaux spécifiques, etc., etc., mais il y a un moment où vous ne pouvez pas. Alors, si vous dites, parce qu'il y a des fortes pressions, en disant, ah, mais vous le mettez là, vous ne respectez pas les standards, mais c'est l'immobilisme. Et le pire des violations, c'est qu'on les laisse se commettre parce qu'on attend que la légalité y pourvoie. Je crois que c'était, j'ai fait du droit romain dans ma jeunesse, on disait summa ius, summa injuria. C'est-à-dire que trop de droits peut provoquer une injustice. Trop d'intégrisme légaliste, dans une période de transition, peut arriver à cela. Deuxième difficulté, carence du personnel judiciaire. Je me souviens, en Indonésie, il était interdit aux Timorais d'entrer dans la magistrature. Alors, du jour au lendemain, on se retrouve sans magistrat. Donc, il a fallu donner une priorité à la formation, d'ailleurs, former de manière un peu artisanale des étudiants en droit au départ, et puis donner ensuite, avoir un vrai programme de formation, au moins pour la période transitoire, qui soit un peu accélérée. En Éthiopie, par exemple, je me souviens, la plupart des juges étaient soit en fuite, soit en prison, parce qu'ils avaient été des crimes graves dans la manière dont ils avaient rendu la justice. Dans ce cas-là, il faut trouver là aussi des garanties de substitution. Pour l'Éthiopie, pour faire bref, c'est un peu une solution empreinte au plea bargain, le système américain. C'est-à-dire qu'on libère des gens s'ils reconnaissent, évidemment pas les cas les plus graves, tout ce qui est crime contre l'humanité, ça n'entre pas dans ces catégories. Mais en Éthiopie, il y a eu 10 000 arrestations. Et un jour, le procureur général chargé de ces affaires vient me voir. Je présidais le groupe sur la détention arbitraire dans le monde, à l'ONU, donc j'étais compétent pour l'Éthiopie. Il me dit, Monsieur le Président, j'ai environ 10 000 détenus arbitraires, qu'est-ce que je peux faire? Alors, c'est là une troisième difficulté sur laquelle j'insiste, c'est l'aspect quantitatif. Dans les périodes de transition, vous êtes très souvent confronté à un problème quantitatif. Plus de détenus, moins de juges. moins de capacité d'administrer la justice. Le cas le plus exemplaire, c'est le Rwanda. Car le tribunal international, c'est l'épée de Damoclès. Mais la justice quotidienne de tous ceux qui ont participé, et j'y étais à l'époque, au moment de la prise de Kigali, c'est impossible de les juger en respectant les standards, c'est-à-dire un délai raisonnable, d'abord, garantie du droit à un procès équitable. Alors bon, il y a eu... La période commence à se terminer, transitionnelle, on a eu recours à du droit coutumier, qui n'est pas évidemment conforme strictement aux standards internationaux. C'est le moins que l'on puisse dire. Dernière difficulté, il y en a d'autres, c'est l'incompatibilité entre le principe d'inamovibilité des juges, qui est un principe fondamental, et le vetting. Alors, vetting, on a réuni un groupe d'experts linguistes aux États-Unis pour trouver une traduction dans les autres langues. On n'a pas trouvé en français, mais les Haïtiens ont trouvé. Ils appellent ça une procédure de certification, c'est-à-dire, ça consiste à examiner le cas de chaque juge. Moi, je connais surtout, j'ai l'expérience dans la police. Et pourquoi ? Parce qu'en Haïti, on a fait le vetting dans la police et on n'a toujours pas commencé dans la justice. Et on arrive à cette contradiction un peu catastrophique, c'est que la réforme de la police va plus vite que celle de la justice. Et donc, il y a une tendance à se reposer plus sur la justice, ça c'est l'aspect d'un, mais il y a des risques d'état policier sur le long terme dans ce cas-là. Et donc, voilà la situation, comment concilier inamovibilité et épuration, pour faire vite. Et alors là, ça, c'est un des points importants. On avait longuement essayé de trouver des solutions. Quand je dis « on », parce que le principe sur l'impunité, c'est une œuvre un peu commune. Et donc, il y a un principe fondamental que je rappelle aux juristes, qu'on appelle le principe du parallélisme des formes. On peut défaire ce que l'on a fait à condition de le faire dans les mêmes formes. Et donc, j'ai proposé deux catégories. Il y a les magistrats qui ont été nommés du temps de la légalité constitutionnelle et qui l'ont été normalement, ben ceux-là, il n'y a pas de raison de les destituer. C'est le principe général. Il peut y avoir un cas ou deux s'il y en a qui ont assassiné ou je ne sais quoi, mais enfin, il faut bien avoir des critères généraux compréhensibles de l'opinion. Et le deuxième, c'est les magistrats illégitimes, c'est-à-dire qui ont été nommés sous le nouveau régime autoritaire, totalitaire ou autre, ben, ils ont été nommés de manière illégitime, anormale, eh bien, on peut les destituer de la même façon. Maintenant, évidemment, il faut proposer les procédures qu'on peut de réintégration, cas par cas, après examen, on en écarte, on en retient. C'est ce qu'on fait dans la police pour Haïti actuellement. Mais ces opérations de vetting, qu'elles soient dans la police ou dans la justice, sont parmi les plus... C'est aussi compliqué que les opérations de désarmement. Parce que vous êtes dans une situation... si on applique les critères dans la police d'Haïti, c'est à peu près 60% des policiers qui doivent être mis à l'écart. Puis après un certain temps, selon des critères, on réintègre, mettons, 20%. Le problème, c'est que pour former des policiers de rechange, si je puis dire, il faut un an et demi, d'où la tentation de faire ça en 3 mois, et de retomber de Carimansilla. Puis pendant ce temps-là, la délinquance, elle continue. Il n'y a pas que les problèmes dans la justice traditionnelle des auteurs de violations. Ça m'a frappé au Timor. C'est les vols, c'est la misère qui se révolte. Et donc, il faut que la justice continue à fonctionner. Dans ce parallélisme des formes, il faut évidemment, ceux qui sont des auteurs, qui ont des indices précis et concordants de violations graves aux droits de l'homme, crimes contre l'humanité, crimes de guerre, infractions de convention de Genève, ceux-là doivent être immédiatement suspendus disciplinairement et désignation d'un juge d'instruction, s'il y en a, qu'il ne soit pas de leur bord, et de retomber très vite dans un processus judiciaire qui soit normal et légal. vous me dites quand je vais m'arrêter.
C'est passionnant. Donc,
alors, j'aborde le deuxième aspect.
Mais on est quand même déjà même au-delà.
Ah, on est au-delà. Bah, je peux arrêter là, puis on répondra aux questions.
Non, mais, non peut-être continuer au moins.
Alors, rapidement, le deuxième aspect, c'est, dont on parle très peu, mais qui est aussi compliqué, c'est ce que j'appelle le processus de l'égalité transitionnelle. Si je prends le cas d'Haïti, dictature de qui se succède, régime autoritaire, puis bon, départ entre guillemets d'Aristide, le président, qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a plus de pouvoir exécutif, il n'y a toujours pas de parlement, la loi antérieure s'applique, il faut quand même gouverner, mais même pour des raisons de distribution des eaux et pas seulement d'arrêter des criminels. Donc là, il y a deux voies qu'on a essayé de développer. La première, qui est un peu connue, c'est qu'il faut gouverner par décret, ou assimiler. Il n'y a pas de parlement. Et là aussi, l'immobilisme, c'est le pire. Alors, gouverner par décret, ce qui était assez intéressant dans le régime transitionnel d'Haïti, qui a duré un an et demi, je crois, du président Latortue, du premier ministre Latortue, c'est d'avoir le consulter au maximum la société civile. Que ce soit milieu professionnel, ONG, etc., milieu universitaire. Ils n'ont pas fait autant qu'il leur était souhaitable, mais c'est au moins une piste intéressante. Vous n'avez pas de parlement, vous devez gouverner par décret. La deuxième, et ça c'est très important pour les juges, et c'est ce qui est le plus difficile, j'y arrive difficilement, c'est ce que j'appelle l'égalité transitionnelle par l'interprétation de la loi toujours en vigueur dans le sens de la légalité future. Tant que la loi n'est pas changée, et on commence seulement en Haïti à voter les trois lois fondamentales, la réforme de la justice, ont été votées il y a trois jours. Vous imaginez le temps qui s'est écoulé. Donc, ce qui est très important, je terminerai là-dessus, l'importance du droit international, sous deux angles. Soit l'État a ratifié du temps, où on n'était pas sous un régime autoritaire, quand l'Uruguay, par exemple, avant la dictature, le juge doit appliquer la norme internationale. S'il n'a pas été ratifié, il faut bien savoir, et les internationalistes le savent, qu'un texte international, une convention non ratifiée, a ce que l'on appelle un effet déclaratif. C'est-à-dire qu'elle ne s'impose pas au juge, mais le juge peut s'y référer comme référent. Et ça, c'est très important. Quand je parlais de l'Ukraine, c'est comme cela qu'avec des magistrats, et pour même des questions de droit civil, pas uniquement les auteurs de crimes graves, vous avez une loi antérieure qui est réactionnaire, si je puis dire. On sait qu'il y a une aspiration pour une égalité future qui va autoriser telle chose actuellement interdite. Eh bien, le juge peut interpréter à la lumière du droit international. Et alors, en France, on a eu le problème, c'était une de mes spécialités avec quelques collègues à la Cour de cassation, c'est que dans tous les pays, les juges sont très souverainistes. Il nous a bien fallu à la Cour de cassation 6 ans avant que des juges, mes collègues, acceptent de viser dans un jugement une norme qui ne soit pas française. On a trouvé ce qu'on appelle le visa gigogne. Vu l'article du code 12 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 6 de la Convention européenne, et maintenant, alors c'est devenu routinier, heureusement d'ailleurs. Bon, bah écoutez, je vais. Il y a beaucoup d'autres choses à dire. Pour conclure, je pense qu'il n'y a pas encore de standards internationaux au sens normatif. Je pense d'ailleurs qu'il ne faut pas se presser. Les débats sur la justice traditionnelle, il y a toute une sédimentation, une créativité. C'est un droit coutumier.